Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles, Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changés. Venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Indonésie, quatrième partie. Pour cette deuxième partie de voyage en Indonésie, les modalités sont différentes parce qu'on est en quelque sorte en vacances. On attend nos amis Pierre et Sophie qui doivent nous rejoindre de France pour une durée de 3 semaines. Alors ce sont des vacances à plusieurs titres, parce que déjà on a boosté le homeschooling avec les enfants ces dernières semaines aux Philippines de manière à être le plus libre et disponible possible avec nos copains. Et puis on voyage un petit peu différemment, donc c'est moi qui ai concocté l'itinérance de ces 3 prochaines semaines, et pour le coup, je l'ai anticipé, de manière à pouvoir trouver des logements adéquats, parce que les 2 premières semaines, on va être donc à 7, et la dernière semaine, il y a la fille de Pierre, Tess, qui nous rejoint, ainsi que Isa, qui est la sœur de Sophie, donc on va être 9. Et clairement, on a anticipé de manière à pouvoir se loger de manière agréable. Et pour le coup, en parlant de logement, ben là, on va alterner avec Pierre et Sophie des endroits très confortables et puis aussi des logements chez l'habitant. Donc ça, c'est chouette. Et la dernière semaine, on loue une maison plutôt luxe, balinaise, du côté de Uluwatu. J'imaginais que ce serait agréable pour Pierre et Sophie de récupérer du décalage horaire dans un endroit sympa. Et donc, notre première étape, elle est à Ubud, où on a loué une maison. Alors, c'est vrai qu'on partage les frais aussi, ce qui nous permet de se louer une maison très agréable. Mais là, c'est magnifique. C'est une maison balinaise avec un bâtiment principal et des petites dépendances pour les chambres. Bon, c'est superbe. C'est tout ouvert, tout en bois. Il y a un bassin qui donne sur une forêt vierge. Bon, c'est complètement magique. Et nous, on s'installe dans cette maison et on attend Pierre et Sophie qui vont arriver le lendemain et on a réservé pour 5 jours. Ça tombe bien qu'on ait réservé un endroit confortable parce que Daniel, il se sent pas très bien à notre arrivée. Et puis le deuxième jour, il reste couché parce qu'il est vraiment pas en forme. Et entre-temps, Pierre et Sophie nous préviennent que du fait de grèves qui ont lieu en France, dans le domaine aérien, ils ont perdu 24 heures à Amsterdam et donc ils vont arriver avec un jour de décalage. Ils sont un peu frustrés, mais alors ils sont là pour un mois parce qu'ils vont rester une semaine de plus après nous, donc ils prennent leur mal en patience. Et par contre, nous, on est super frustrés. On a tellement, tellement hâte de les retrouver et les enfants surtout sont très, très excités de retrouver d'autres personnes, alors même si ce sont des adultes, des copains, pour pouvoir leur raconter tout ce qu'on vit, quoi. On en profite pour prendre nos marques à Ubud. Et là, c'est un petit peu la déception parce que moi, j'ai connu Ubud il y a 20 ans et j'avais le souvenir plutôt d'un village qui était, déjà ouvert aux touristes, mais pas aussi urbanisé que ça. Et là, en fait, on est dans une ville où c'est très bétonné. Il y a une foule de véhicules, de scooters, de voitures, des embouteillages importants, beaucoup, beaucoup de boutiques très touristiques, beaucoup de touristes. Et nous, on a loué des scooters, on circule là-dedans, mais c'est franchement pas agréable. Moi, j'avais pris de l'assurance en scooter, mais là, je me retrouve à nouveau dans une ambiance où je me sens pas très à l'aise. Heureusement, notre logement est à l'écart du centre-ville. Donc c'est à peu près un petit quart d'heure à pied. Et surtout, c'est vraiment dans la nature, à côté des rizières, où on trouve quelques petits restaurants. Donc nous, on profite plutôt de ce quartier-là et on reste beaucoup à la maison. J'ai un peu d'appréhension parce que j'ai voulu organiser un programme qui mélange à la fois de l'établissement sympa dans des endroits voilà, de gamme et puis en même temps du logement chez l'habitant, un itinéraire, quoi. Et je me dis, mince, j'espère que ça va leur plaire aux copains. Je me sens un peu de pression par rapport à tout ça. Et ouais, j'ai envie qu'on passe tous un très bon moment. Daniel, lui, il avait un imaginaire sur Bali qui était du surf tout le temps, beaucoup de nature, sauvage et tout. Et là, il se dit, mais où est-ce qu'on est tombé? Nos copains arrivent le surlendemain, vers 22h30, et les filles sont restées réveillées pour les attendre. Ce qui est exceptionnel parce que c'est vrai que depuis le début du voyage, on vit pas mal avec le soleil qui se lève tôt et qui se couche tôt. Mais elles sont là super excitées. On est tous très très contents de se retrouver. Et ça fait drôle parce que c'est vraiment comme si c'était hier. On ne s'est pas vu depuis plusieurs mois alors qu'on se voyait beaucoup quand on vivait à la maison, quoi. Et en fait, voilà, on se retrouve comme si c'était hier. Et puis ce qui est chouette, c'est qu'ils nous ouvrent la malle au trésor. Ils ont ramené deux, trois petites choses, notamment pour les enfants. Et des biscuits au chocolat, des princes qu'elles adorent. Et deux paquets de chocobons, qui sont des petits chocolats. Et là, elles sont aux anges. En fait, les biscuits, ce sont ceux que je leur mettais dans leur boîte à goûter quand elles étaient à l'école l'année d'avant. Et puis, les chocobons, c'est ce qu'on mettait dans le calendrier de l'Avent pour Noël. Et donc, je sais pas, d'une manière symbolique, les filles, elles ont fait une obsession pendant notre voyage sur le fait qu'elles avaient hâte de remanger ces aliments, que finalement, dès lors qu'on est rentré en France, elles ont plus trop touché, quoi. La première journée, on la prend de manière cool, avec le décalage horaire. Et puis, Daniel est toujours bien patraque. Il nous suit, mais il n'est pas très en forme. Et on prend les scooters qu'on a loués pour tout le monde et on va déjeuner dans un resto au milieu des rizières où on a déjeuné, nous, le premier jour. Et c'est super chouette. Et là, les filles, elles sont toujours aussi excitées, elles ont une espèce de diarrhée verbale, quoi. Je crois que les 48 premières heures, elles n'ont fait que parler, raconter à nos copains ce qu'on a vécu, les différences entre chaque pays, ce qu'elles ont aimé, pas aimé. C'est super enthousiasmant à regarder. Nous, ça nous fait du bien aussi, et ça sera le cas pendant les 3 semaines de partage, parce que les copains vont prendre un peu le relais aussi sur nos enfants, pour jouer à des jeux de société, aux cartes, aux dés, pour papoter tout simplement. Et c'est vrai que voilà, nous, ça nous fait du bien de relâcher un petit peu ce huis clos. Et puis évidemment, c'est super agréable pour nous de pouvoir repartager et partager sur tout ce qu'on vit depuis le début du voyage. On se fait une sortie à vélo avec une agence. Alors une sortie VTT avec des points de visite, des points de chute. Bon, c'est sympa, mais ça reste voilà, très organisé, touristique, même si on n'est qu'entre nous. Et puis, on va visiter aussi un temple, le temple des singes, là, qui est à Ubud. Donc, c'est joli aussi. Après, moi, je ne suis pas rassurée. Parce qu'il y a ces singes, ce sont les singes gris d'Asie, là, ceux qui vivent en ville, qui viennent là pour manger, et ils peuvent être vraiment vilains et agressifs. Donc je me sens pas du tout en sécurité dans cet endroit. Je sais pas, je me sens pas bien dans ce parc. Et puis avant d'aller à notre étape suivante, moi je propose à ceux qui veulent l'ascension du Mont Batur, qui se trouve assez proche de Ubud, donc il faut prendre la voiture quand même pour faire l'ascension et puis monter. Le but, c'est de faire le lever du soleil, donc on trouve un chauffeur qui nous emmène et sur place, on est obligé de prendre un guide local, on ne peut pas faire autrement. Bon, ça, c'est le côté aussi un peu pénible de l'Indonésie où il faut faire des choses librement, c'est compliqué. Et les gens peuvent être un peu agressifs si vous décidez de faire les choses seuls. En général, il faut toujours payer une petite taxe ou se faire accompagner d'un soi-disant guide local. Mais bon, souvent, ce ne sont pas des gens qui sont de vrais guides officiels. Nous, on joue le jeu. Dans l'équipe, il y a les adultes qui sont partants et puis Swan également qui veut nous accompagner. Alors, ça pique un peu parce que le réveil est à 2h du matin. L'idée étant, avec le transport et le lever du soleil, de pouvoir être en haut pour 5 heures, quoi. On se dit, c'est pas très sympa de faire ça à nos copains qui commencent à peine à se remettre du décalage horaire et on les fait à nouveau se décaler. Mais on se dit que ça va être une belle expérience et on profite en fait d'être dans cette maison donc avec une gestion balinaise, c'est-à-dire qu'il y a un gardien qui vit à demeure dans une petite maisonnette et puis il y a cette dame qui vient aussi faire voilà vider le compost, faire un peu de ménage tous les jours, faire les lits. Et moi je les préviens la veille qu'on va laisser les deux petites dormir et qu'on sera de retour à peu près après leur petit déjeuner. Et on se sent en sécurité de laisser les deux petites à la maison parce que voilà, il y aura d'autres adultes qui sont prévenus sur place. Et d'ailleurs, c'est hyper sympa parce que quand on rentre de notre excursion, les filles viennent de petit déjeuner et puis la dame leur a apporté des petites pâtisseries locales, bon, très très sucrées, mais pour voilà, en guise de cadeau, ce qui est hyper sympa. Donc nous voilà partis pour l'ascension. Donc déjà 1 heure de voiture à peu près pour aller au départ. Et là, en fait, quand on arrive, on hallucine. Il y a une quantité de chauffeurs, de minibus, mais énormissime, beaucoup de monde. Là, on nous présente notre guide, qui est une jeune femme qui doit avoir 22, 23 ans, qui commence à... Voilà, on part pour randonner. On a à peu près, donc eux, ils nous disent 1h30 à 2h de marche, mais en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment tout type de touristes qui viennent et ils ne savent jamais évaluer l'énergie, enfin la capacité de marche de chacun. Et nous, on a un bon rythme. En fait, au bout de 40 minutes, on est plutôt devant la guide que derrière. Et en fait, on boucle l'ascension en 1h15. Elle arrive là-haut, elle est super essoufflée. Bon, elle a la pêche, mais elle nous dit « Ah, dis donc, vous êtes vraiment des bons marcheurs ». Nous, ça nous fait sourire parce que on a marché à peu près normalement, quoi. Et là-haut, commence un long temps d'attente. Alors, on arrive à se trouver un petit coin sur un banc assis, un tout petit peu protégé du vent, collé à un baraquement où attendent tous les guides. Et il fait froid, on commence à avoir froid, on avait prévu de quoi se couvrir. Daniel, lui, il est enveloppé dans un sarong qu'on avait acheté à Florès, donc qui lui tient un peu chaud, il est vraiment, vraiment pas bien. Et on attend, et là on voit la ribambelle de lampes frontales qui montent, et les touristes qui arrivent en masse. Mais c'est vraiment impressionnant, et on commence à se demander ce qu'on fout là en fait. Mais comme on est des gens plutôt positifs, on se dit que ça sera une expérience. Et c'est vrai que quand le soleil se lève et qu'on commence à voir tout le paysage, alors déjà il y a les lumières qui sont magnifiques. Et puis on voit le cratère derrière nous qui est incroyable aussi. On voit les fumerolles du volcan en activité qui s'échappent. C'est vraiment très beau. Et puis la deuxième partie du spectacle, c'est d'observer tout un tas de touristes de toutes nationalités. Notamment, il y a un couple avec une perche à selfie, tous les deux. Et en fait, on réalise à partir du moment du lever du soleil, ils doivent être en live sur un Instagram ou une chaîne Facebook. Et ils parlent à des gens, je sais pas, à leurs fans. Et ils sont en train de commenter tout ce qu'ils font. Et en fait, ils poseront pas le téléphone pendant 40 minutes. Ils seront là à vivre l'instant au travers du téléphone.
Allez, ils sont où le défilé des stars là? Oui, encore en attendant.
Ouais.
C'est super effrayant à regarder. Ouais, on est scotché. Et ça nous conforte en tout cas, nous, dans notre façon d'apprécier le moment et de regarder ce beau paysage et surtout de faire abstraction de tout le monde qui est là. Bon, malgré tout, une fois qu'on a vu ce lever de soleil, La guide nous propose d'aller plus loin, faire des photos. Nous, on dit non, merci. Et on veut descendre et rentrer le plus vite possible et voir le moins de monde possible sur le chemin de la descente. Ça me rappelle d'ailleurs quelque chose qu'on a vécu quand on randonnait sur une petite île dans le parc maritime des Komodo. On était monté à un point de vue qui était un stop assez officiel quoi, pour les touristes. Et là-haut, il y avait vraiment un rocher qui donnait une vue incroyable sur la mer et les îles alentours et qui était un petit peu le spot de photo. Donc, on était quelques personnes à attendre patiemment notre tour. Et là, il y avait ce couple de jeunes, ils devaient avoir pas plus de 25 ans, et des Français d'ailleurs. Et lui prenait sa copine en photo avec un gros appareil photo. Et elle posait, la faisait une pause, une deuxième pause, une troisième pause. Elle ouvrait sa chemise, refermait sa chemise. Et puis à un moment, lui se rapproche, lui lui montre les photos. Ils sont pas OK, donc ils reprennent des photos. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et nous, on voulait juste pouvoir s'approcher pour avoir la vue, prendre rapidement une photo de famille et repartir. Mais on se disait, les gens, ils voyagent vraiment différemment maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui passent leur temps à voyager au travers de l'écran. Et surtout qui voyagent en pensant aux photos qu'ils vont ramener. Alors que les photos, ça reflète pas complètement la réalité. On finit notre séjour à Ubud tranquille à la maison. C'est vrai qu'on y est super bien. La ville, on sature. On en profite pour se faire masser. On a des masseuses qui viennent à la maison un après-midi. Daniel récupère. Il va mieux. Avec du recul, on pense qu'il a eu le Covid. Moi, j'avais apporté des autotests, mais avec la chaleur, le sérum, le liquide de test avait un peu diminué dans les pipettes. Il était sorti négatif, mais malgré tout, on pense que c'est ça, parce qu'il avait perdu l'odorat, il avait très mal aux poumons, il a eu forte fièvre, enfin bref. Donc voilà, lui, il est à peu près remis sur pied. Et puis, on a bien profité de la cuisine aussi, pour cuisiner un peu. Swan, elle continue à faire tous les jours ses pancakes à la banane. Donc ça, c'est devenu sa recette fétiche du voyage. Et on se prépare pour la prochaine étape. On se rend à Ahmed, qui est une ville qui est en bord de mer au nord de l'île. Et c'est plutôt un village d'ailleurs. Et Ahmed, c'est une atmosphère super sympa. Parce que il n'y a qu'une route qui passe par Ahmed. Ensuite, vous arrivez sur la plage. Il y a peu de monde. C'est une destination qui attire beaucoup les plongeurs. Donc il y a un état d'esprit assez nature, sport. Les plages, elles ont vue sur le volcan, sur le mont Batour. C'est super beau. Et c'est vrai que quand on arrive, on se glisse dans une ambiance qui est très différente d'Ubud. On arrive dans une petite maison qu'on a louée, c'est petit, mais c'est très très confort. Les lits d'ailleurs, les lits doubles, ils doivent faire 3 mètres de large, c'est incroyable. Il y a une piscine également. Et on traverse la rue, on arrive direct à la plage. Et notre premier bain de mer, il se fait au coucher du soleil. On a vu sur le volcan. L'eau est délicieuse. On sent qu'on va se passer un bon petit séjour sur place. Effectivement, on se fait 2 jours complets de glandouille sur la plage. On a les masques, les tubas. Il y a des poissons incroyables à distance de nage de la plage. Sous l'eau, c'est pas mal parce qu'ils ont voulu ramener plus de poissons dans la baie. Donc initialement, il y avait des bateaux qui transportaient des passagers qui allaient de Ahmed jusqu'à Lombok directement ou aux îles des Gili. Et là, maintenant, c'est plus possible. Il faut aller au port de Padang Bai. Et donc, le fait d'avoir enlevé ces bateaux, ils ont remis des petites statuettes de type indonésien sous l'eau, de manière à pouvoir refixer le corail, des algues et attirer les poissons pour qu'ils viennent nager proche du rivage. C'est hyper agréable de se dire qu'on peut faire du snorkeling sans prendre forcément un bateau de pêcheur. Ça nous laisse beaucoup de liberté pour bien profiter sans à se, entre guillemets, se contraindre d'aller chercher un bateau, négocier un prix. On se sent assez libre. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Donc, tous les restos ne sont pas ouverts sur la plage, mais on se trouve des petites gargotes pour manger. Et là, on se régale. Le poisson, il est frais. C'est de la nourriture simple, mais c'est super bon. Le lendemain soir, notre arrivée, on décide de se faire une sortie entre adultes pour aller boire un verre après manger dans un resto qui est sur la plage. On y va un petit peu au pif et puis on tombe dans un resto où il y a un concert. Donc on se dit bon, qu'on va aller boire un cocktail ou deux et puis on verra bien. On a besoin de ce moment un peu privilégié entre adultes parce que voilà, on a besoin de respirer des enfants. Et en fait, y a du monde dans cet endroit et le groupe, il est franchement pas mal. C'est un groupe de rock local, ils font que des reprises et c'est super. La musique est bonne, le chanteur, il est top. Et en fait, on prolonge le moment passé dans ce bar et puis les gens commencent à danser. Et en fait, on est pris par l'ambiance, c'est hyper sympa, on commence à danser et je pense que l'apothéose c'est quand le groupe se met à chanter Bambam Lelo des Gypsy King, et là c'est la folie, c'est le feu et on danse comme des malades et c'est un moment de joie partagée énorme parce qu'on n'imaginait pas qu'au fin fond de Bali on se retrouverait à vivre cette soirée assez exceptionnelle dans ce bar. Ahmed aussi en vit un moment mémorable, un retour de plage en scooter où il commence à pleuvoir. Et en fait, on se prend un déluge, la vraie grosse pluie tropicale. Et ça, c'est un souvenir génial parce qu'on rentre à la maison, mais on est trempé de chez trempé. Moi, je me retrouve même, avant d'arriver, bloqué dans une grosse flaque en scooter. En fait, je suis sur le point de noyer le moteur, mais je réussis à repartir. Et on arrive complètement trempé, mais qu'est-ce qu'on rigole, ça nous fait marrer. Et ça, c'est quelque chose qui restera gravé dans nos esprits. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu? Venez écouter l'épisode 22 sur la cinquième partie de notre voyage en Indonésie. À bientôt !